Toujours un grand bonheur de vous rencontrer de nouveau, de vous voir, de connaître aussi plein de visages que je ne connais pas. Et ça fait toujours plaisir d'être devant des bien-aimés qui cherchent la présence de Dieu, qui désirent mieux le connaître, qui désirent faire intimement connaissance avec le Dieu de la création et qui désirent vivre un chemin qui plaît à Dieu et qui, en fin de compte, est le seul qui peut apporter à notre société des vraies valeurs. Ce matin, le sujet que j'aimerais aborder peut s'intituler « Progresser encore ». Progresser encore. Alors bien sûr, si on parle un peu de cela dans la population dans laquelle on se trouve, mais vous voulez progresser, on va vous dire « Mais attendez, vous n'avez pas une vue d'ensemble de la planète, on progresse comment là ?» C'est par la dégringolade ou c'est quel progrès là ? On parle de quoi ? Oui, progresser encore, mais progresser en quoi ? Et progresser, mais dans quel sens ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'on ne parle pas toujours de progrès alors qu'on est en pleine descente ? Mais progresser en quoi ? Ce qui m'impressionne au travers de l'histoire, et particulièrement au travers de l'histoire de l'Église au travers des siècles, c'est qu'il y a toujours eu des femmes et des hommes qu'on n'a pas toujours connus, qui font partie, qu'on découvre un peu dans un livre qui s'appelle « L'Église ignorée ». Des gens qui ont marqué leur entourage par une certaine paix, par une certaine assurance, sans recherche d'exploit, sans recherche de paraître, mais qui ont marqué d'autres qui étaient autour d'eux, certains qui n'ont jamais découvert pourquoi ils sont comme ça, en fin de compte, et d'autres qui ont découvert que ces gens avaient une source intérieure qui leur permettait d'être différents. Progresser encore. Et je trouve que c'est merveilleux, au travers de l'histoire de l'Église, comment Dieu nous met toujours à cœur la réalité de suivre pas simplement l'invisible, de suivre pas simplement un texte, mais de pouvoir suivre des personnes et de vivre une imitation auprès de ceux qui eux-mêmes ont imité le Christ. Nous sommes dans une société qui prône surtout l'indépendance, ce qui fait que nous sommes presque tentés de croire que nous pouvons tout trouver par nous-mêmes et que nous n'avons pas forcément besoin de la pensée d'un autre ou de l'exemple de vie d'un autre, que nous sommes assez grands nous-mêmes en tant que personnes pour savoir comment faire des progrès. Et nous confondons quelquefois les progrès dans une vie avec simplement le progrès dans la connaissance intellectuelle. Pour le progrès dans la connaissance intellectuelle, bien sûr, on a des sources où on peut travailler d'une façon isolée. Mais pour les progrès dans l'entier de l'existence, on a besoin de savoir ce que la Bible, parole de Dieu, affirme et dans quel domaine elle veut que nous fassions ensemble des progrès. Alors, je vous lis le texte dans 1 Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, qui est la première épître qu'il a écrite quand il a, dans son ministère. Et je lis au chapitre 4e, les versets 1 à 12. Au reste, frères, c'est pour les sœurs aussi, hein, mais je recommence. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Texte intéressant, où il y a le progrès dans la sanctification, donc dans la mise à part pour Dieu, et où il y a le progrès dans l'amour. Un amour et une éthique de vie qui nous permet d'avoir besoin de personne. Amour, besoin de personne, des réalités qui sont là. Les croyants à Corinthe avaient donné leur vie à Christ et c'est Paul et son équipe qui leur dit au premier chapitre, les versets 6 et 7 que je lis, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Devenu imitateur et imitateur du Seigneur en accueillant la parole de Dieu. Il y a ici un défi, et je trouve très intéressant ce défi. Un défi pour chacune de nos vies, nous qui avons reçu Christ comme sauveur, c'est d'être très très conscient que nous sommes observés. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous imiter. Il y a des gens qui sont en recherche de modèles. Souvent, les gens sont en recherche de modèles sans le savoir. Mais ils sont simplement en train de découvrir entre les humains ceux où ils ont l'impression « ça, ça vaut le coup d'être vécu » ou « je ne voudrais vraiment pas être comme celui-là ». Et quelque part, l'être humain est toujours à la recherche de quelqu'un qui peut un peu confirmer le chemin qu'il a commencé et qui pourrait le conduire un peu plus loin, mais avec une certaine crainte, la crainte d'être conduit dans une fausse direction. Lorsque l'apôtre Paul, dans sa dernière épître alors, dans sa dernière lettre qu'il écrit à Timothée, lorsqu'il est inspiré par Dieu dans le chapitre 3, dans 2 Timothée, et où il dit quel sera le style de la fin des temps, vous trouvez quantité de faits que vous retrouvez quand vous rentrez dans la société, qui sont tout à fait présents. Et quand il parle de tout ce système de la fin des temps, où en fin de compte il n'y a plus de respect humain, il n'y a plus de... On ne considère plus la valeur de l'autre comme une valeur à respecter, comme une valeur à écouter, comme une valeur à découvrir, comme une valeur qui pourrait être une créature de Dieu, cet autre que je rencontre, qui est une créature de Dieu. Quand il montre comment dans la fin des temps, il y a peut-être encore un certain respect pour le religieux, mais de renier ce qui en fait la force, la relation personnelle avec le Christ. Il continue après ce texte dans 2 Timothée 3, la suite du chapitre où il dit, je vous le lis, en parlant à Timothée, son cher collaborateur, « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Il continue en disant à Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Formidable. L'apôtre Paul âgé, avant l'étape finale vers le ciel, ce qu'il transmet encore comme rappel à son jeune collaborateur, c'est de garder ce principe, de prolonger ce qu'il a vu comme étant efficace dans une autre vie. Paul n'est pas en train de tenir ses bretelles et dire « Ouais, regarde-moi, hein, t'as vu l'apôtre, hein, le gars ?» Pas du tout. Parce qu'il parle de lui-même, Paul, comme étant le dernier des hommes et le pécheur. Il parle de lui en disant « J'ai considéré tout dans ma vie comme de la boue, afin de gagner le Christ et d'être reconnu comme un des siens. » Il ne s'appuyait plus sur des valeurs autres que sur sa recherche profonde de plaire à celui qui avait empêché la suite de son chemin sur le chemin de Damas et qu'il a rencontré. Il voulait connaître celui qui l'a attrapé sur le chemin. Il voulait se saisir de lui et le découvrir. J'aimerais vous encourager, observez avec un œil positif la vie des autres qui croient en Jésus, afin que notre marche commune soit toujours à nouveau un encouragement, avec un regard où nous voyons plus loin. Je peux regarder mon frère avec peut-être ce petit défaut que je vois en lui, mais je peux aussi regarder mon frère avec l'accomplissement de la sanctification sur le chemin dans lequel il se trouve. Parce que comme moi, il est en train de désirer de s'approcher davantage de Jésus. Comme moi, il veut vivre la pureté. Comme moi, il a reçu le Saint-Esprit et désire obéir à l'Esprit de Dieu. Donc je peux croire que le même désir qui habite en moi, le désir donné par le Saint-Esprit, le désir de louer Dieu, de révéler Jésus au travers de mon imperfection, ce même désir vit en lui. Et donc je peux me réjouir de la marche dans laquelle il se trouve. Considérons les modèles de l'histoire de l'Église, considérons ceux qui nous ont précédés. Considérons les aînés qui peut-être n'ont plus tellement de force pour s'exprimer, mais qui ont tenu fidèlement la persévérance pendant des décennies au travers de toutes les différentes difficultés de l'existence et qui sont restés attachés en simplicité, peut-être dans le silence, sans apparence, mais qui ont persévéré dans l'union avec le Christ. Je reviens à mon texte, 1 Thessaloniciens 4. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Positif, hein, l'apôtre Paul. Vous avez appris, mais vous le faites. Et ça, c'est sûr, vous le faites. Okay. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Progresser, s'abstenir. Deux verbes qui marchent ensemble. Pour progresser, il faut savoir dire non à certaines choses. On ne peut pas progresser sur deux chemins. On peut progresser sur un chemin, pas sur deux. Excusez-moi, je n'ai pas un mouchoir jetable, donc j'enfreins la loi. Et la, Et la gorge que vous entendez, elle est déjà comme ça depuis à peu près 2 années. J'ai trop crié en plein air, donc ma voix, elle est cassée. Hein, donc, c'est pas nouveau. Ça vient d'une déformation professionnelle. Okay. Ce que Dieu veut, c'est la mise à part pour lui, c'est la sanctification. Ce qui me frappe ici, c'est le verbe, ce qu'il veut. Quelquefois, je suis un peu gêné à l'intérieur des églises parce que je ne voudrais pas généraliser, bien sûr, et me planter. Mais je crois qu'il y a certains textes qu'on serait quelquefois tenté de dire « c'est un bon conseil ». C'est bien. Je t'encourage à aller dans cette direction. Mais ce que Dieu veut, il ne dit pas, l'apôtre Paul ne dit pas, moi je vous conseille, hein, si vous avez du temps, réfléchissez un peu à votre sanctification. Parce que ça plairait certainement au Seigneur si vous progressez dans la sanctification. Non, ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je progresse et que dans ce progrès, il faut que je m'abstienne de certaines choses. S'abstenir d'eux. Vous absteniez de l'inconduite. Je ne rentre pas dans les détails de cette inconduite. Dans le texte grec ici, il y a marqué « porneo ». Si quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est assez facile à comprendre. Dans tous ces domaines et dans tous ces sens. On n'a même pas besoin d'explication. Mais quand on regarde les informations de ces derniers jours, comment des gens peuvent être glorifiés dans leur capacité d'être des artistes, en étant en même temps des violeurs, on réalise très bien que on est dans un monde où on désire un progrès sans s'abstenir. Et dans la vie spirituelle, Dieu nous dit, je veux que tu progresses, je veux la sanctification, je veux que tu sois mis à part pour moi, parce que je t'ai sauvé et en te sauvant, je t'ai déjà mis à part pour moi. Tu ne t'appartiens plus, tu es déjà à Dieu. Et puisque tu l'es, Dieu dit, je veux que tu sois comme ça. Et il précise que chacun de nous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On remarque bien que là derrière, il y a une discipline. Alors on va me dire, attention Dani, ne deviens pas légaliste. Hein. Surtout, ne deviens pas légaliste. Parce qu'aujourd'hui, je réalise aussi que très souvent, on confond légalisme et discipline personnelle. Le légalisme, c'est en fin de compte, ce sont des disciplines qu'on se donne pour qu'on soit religieusement correct. Et la discipline personnelle de s'abstenir, c'est un engagement volontaire pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Le légalisme peut obéir à des principes religieux, la discipline de vie obéit à la parole de Dieu. Parce que nous pourrions être tentés de penser que la discipline, l'exercice de notre volonté, pourrait d'un coup être quelque chose de charnel, où en fin de compte, il faut se laisser porter par la grâce de Dieu, où il faut se laisser simplement transporter par l'Esprit de Dieu. La réalité, c'est que dans l'Écriture, Dieu nous prend tellement au sérieux qu'il veut toujours la collaboration. Il ne va pas faire de ses enfants des marionnettes. Il veut une pleine collaboration. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est que je m'abstienne de certaines choses. Et c'est pour ça que dans ce texte, on retrouve de suite après, je vais un peu plus vite, qu'il y a la discipline par rapport à maintenir notre vie dans la sainteté et l'honnêteté, et à partir de l'honnêteté, Paul rentre dans la dimension des affaires, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la convoitise passionnée concernant la sensualité et la sexualité. Et il continue que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Pourquoi il met ces deux choses ensemble? Parce que la discipline qui est la plus proche de nous, c'est celle qui est liée à la sexualité. C'est celle qui nous demande un engagement volontaire et qui nous demande toujours à nouveau la sincérité et l'honnêteté de demander pardon. Parce que chacun de nous sait que le critère que Jésus a placé dans le sermon sur la montagne, que si je regarde une femme pour la convoiter, que j'ai déjà commis adultère, alors je sais pertinemment que je suis, sans le pardon, je ne pourrais pas exister. Donc il nous conduit dans un point premier pour nous montrer, il faut que tu apprennes l'honnêteté envers toi-même pour arriver à être honnête dans les affaires avec les autres. C'est-à-dire, dès que tu découvres qui tu es, dès que tu sais combien tu as besoin du pardon, du sang de Jésus pour revenir et d'être pardonné et gracié, quand tu vis cela, tu peux aussi, dans la société, dans le rapport avec les autres, tu sais accepter les faiblesses et tu veux l'honnêteté. Parce que tu découvres déjà dans ta vie personnelle que l'honnêteté et la grâce conduisent à la paix et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la paix. La paix profonde ne peut pas être trouvée sans cette honnêteté, et cette honnêteté rejaillit dans ta vie sociale. Je reprends le verset 6, que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Donc, cupidité, c'est amour de l'argent, hein, parce que dans les affaires, ça peut aller très vite qu'on fasse un peu, parce qu'on aime quand même, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est pas du tout extérieur à mes pensées, hein. Pas quoi. Le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, Dieu fait justice. Nous ne pourrons pas garder une injustice et penser qu'elle ne sera pas connue. Dieu veut nous conduire de façon à ce que l'injustice soit réglée et que notre vie soit marquée par la justice. Verset 7, il revient à l'apôtre Paul en disant « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » L'impureté ici, dans le verset 7, concerne les deux pensées d'avant, c'est-à-dire autant la notion de la vie sexuelle que la notion des affaires. Dans tout cela, il peut y avoir de l'impureté. Et parce qu'il y a tout, dans tout cela, il rappelle encore une fois, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est beau, parce que Paul nous rappelle ici à quoi nous avons été appelés. On est appelés à quelque chose. On est en chemin. Et c'est Dieu qui nous a appelés, et c'est Dieu qui nous a donné une mission à accomplir. Et dans cette mission à accomplir, il y a des attitudes. Et dans cette attitude, il y a ce texte. Dans l'attitude, il y a la sanctification, il y a la purification, il y a la droiture, il y a l'honnêteté dans les affaires. Ça, c'est dans l'attitude pour notre appel. Que tu sois appelé à travailler dans une entreprise, ou comme missionnaire, ou comme pasteur, ou comme évangéliste, ou comme chef de chantier, ou comme ouvrier sur la voie publique, le principe de l'attitude est le même, dans la même simplicité. Ça va? Je peux encore continuer quelques minutes? Oui? Oui, d'accord. Sinon, vous pouvez me faire arrêter, hein, pas de problème. J'arrive alors au deuxième point, si ça vous va. Le premier point, c'est progresser encore dans la sanctification. Hein, on est d'accord? On veut progresser dans la purification. Et on veut accepter que Dieu veut cela. D'accord? On accepte que c'est la volonté de Dieu. Donc je décide, je veux, Seigneur, me soumettre à ta volonté, je veux progresser dans la sanctification. Je veux, comme on l'a chanté, que s'il y a des choses qui ne sont pas pures en moi, tu me le montres. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Seigneur, révèle-le. Deuxième point, c'est le premier, progresser dans la sanctification. Deuxième, progresser dans l'amour fraternel. De nouveau, l'apôtre Paul commence, comme d'habitude, avec ce regard plein de joie et de bonheur pour son Église, en disant, pour ce qui est verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Super. Il sait que puisque les Thessaloniciens ont donné la vie à Jésus, comme il le précise dans le premier chapitre, puisqu'ils appartiennent à Jésus, il sait que ces croyants ont reçu l'amour de Dieu et développent cet amour de Dieu entre eux. L'amour qu'on a reçu de la verticale, du Dieu qui vient nous donner cet amour et qui nous le révèle, il est toujours reçu pour le transformer en horizontal, pour le répandre sur nos frères et sœurs. Cette satisfaction que tu reçois de lui dans tes silences personnels, dans ton moment de lecture, dans tes moments d'adoration, cette joie, cette paix que tu reçois, qu'il te donne, tu la reçois pas pour la conserver. Tu sais bien que tout ce qui se conserve sans avoir un congélateur, ça pourrit tôt ou tard. Hein? Donc, comme tu n'es pas un congélateur, donc ne conserve pas. Mais tu l'as reçu pour le donner. Donc, il dit, je reprends le verset, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. » Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Et quel est maintenant ce progrès qu'il dit ? À mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors, je ne comprends pas trop, parce que l'amour dans l'Église, ça devrait être que l'autre y m'aime, non ? Et qu'il s'occupe de moi, non ? Ce n'est pas l'autre qui devrait m'aimer, non ? Ben, il semblerait que ce n'est pas que ça. Je suis dans l'Église, les autres, ils devraient vraiment être contents que j'y suis, non ? Bon, là, c'est facile, je suis de passage, donc vous me supportez. Non, mais là, la précision est importante. C'est que tout en étant marqué par cet amour, chacun doit s'occuper sur le plan de la vie personnelle, doit travailler de ses mains, s'occuper de ses propres affaires. Cette semaine dernière, j'ai eu comme ça des visites à faire avec un bien-aimé qui est au Seigneur, mais où une des difficultés, c'est simplement qu'il était très convaincu que l'Église doit faire tout pour lui. Ça existe, ça, hein? Je ne sais pas si vous savez. Mais il était, voilà, et j'ai dû lui dire, attends, il y a un moment, là, tu sais, le truc qui pousse, là, tu vois, il faut user un peu. Hein? Parce qu'on donne très peu de messages, ou alors peut-être Jonathan en a donné, mais on donne très peu de messages sur la paresse. Ce n'est pas très courant. Paresse. Et ici, c'est en rapport avec progresser encore dans l'amour. Tiens, je veux progresser dans l'amour, et en progressant dans l'amour, je vais faire des progrès si je m'occupe mieux de moi-même. Et si je n'ai besoin de personne. Non, ce n'est pas une contradiction, c'est un enrichissement. Ça veut dire que je vis en tant que témoin de Jésus en ayant un objectif intérieur. Je ne veux pas être en charge aux autres. Je sais bien sûr que comme il y a l'amour fraternel, si je suis en réelle panne, je peux compter sur l'Église. Et ça, c'est un énorme privilège. Mais je ne veux pas vivre de façon à ce que je sois une charge pour les autres. Ici, il y a cet équilibre de l'amour de Dieu et de la responsabilité personnelle dans ce texte. Et dans les deux notions, dans la sanctification et dans l'amour, il y a le même verbe « progresser encore ». Faites encore des progrès. Faites encore des progrès pour voir comment, au mieux, gérer votre vie personnelle, vos biens personnels, ce que vous avez, et de voir comment vous le gérez au mieux. Cette gestion personnelle des biens, c'est aussi cela qui libère les plus grands capitaux pour le royaume de Dieu. Parce que quand on gère son foyer avec la musique de la reconnaissance, on a beaucoup. Quand on gère son foyer avec la musique, voyez l'autre musique, où on n'est pas reconnaissant, où c'est jamais assez, on manque de tout. Et c'est tellement différent. Ce cœur qui a compris que je peux progresser, être satisfait, être détaché, être dans l'honnêteté. L'honnêteté dont il parle, Paul, nous permet aussi d'être honnêtes dans les relations fraternelles lorsqu'à un moment donné, nous n'avons rien. Que dans la relation fraternelle, on peut dire, écoute, là, je suis en panne. Tu ne peux pas m'aider. Là, j'ai vraiment rien. L'honnêteté, l'ouverture. Progresser dans l'amour fraternel, c'est aussi ces moments que vous connaissez et que vous pratiquez, où on est ensemble et on ouvre son cœur. On fait plus que simplement la relation humaine. Hein? Parce que la relation humaine, c'est un peu... Ouais, c'est chouette, quoi. Hein? C'est après le culte, vite l'apéro. Ah oui, pas mauvais le truc. OK, d'accord. Bon, relation humaine, ça va bien. Mais on peut aller encore plus en profondeur. Et on ouvre son cœur pour pouvoir se dire aussi quel est le sujet de prière qu'on aimerait que l'autre porte avec nous. Quelle est la bataille qu'on est en train de mener? Quelle est la souffrance qu'on a? Quelle est la fragilité? Quel est peut-être le péché ou la tentation avec laquelle on est en train de se bagarrer? Cet amour fraternel nous permet d'être ce que nous sommes. Et je pense que c'est le plus grand bonheur du chrétien, et je m'arrête là, c'est que Jésus nous a donné la capacité d'être ce que nous sommes vraiment, des enfants de Dieu. Si ta vie est à Jésus, ce que tu es vraiment, c'est un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et où, en fin de compte, tu n'as plus besoin de te valoriser avec tes propres armes. Tu n'as plus besoin de justifier tes erreurs, tu peux les reconnaître, c'est tellement, tellement plus facile. Tu n'as plus besoin de te valoriser devant les autres pour être quand même quelqu'un. Tu es quelqu'un pour Dieu, parce qu'il a tout donné pour toi. Tu es une sainte mise à part pour Dieu. Tu es un saint mis à part pour Dieu. Et tu n'es pas moins. Et ton bonheur, c'est que tu es membre d'une église. Membre d'un corps. Aujourd'hui, quand on dit membre, on pense souvent association, machin. Non, non, oublie tout ça. Prends la notion biblique. C'est membre d'un corps. Si mon bras, tu me l'enlèves, je manque vraiment de beaucoup. Je ne peux même pas me l'imaginer. Donc je suis membre, pas d'une organisation, je suis membre d'un organisme, de quelque chose qui, en arrachant le membre, il y a une partie morte, celle qui est arrachée. C'est pas simplement, voilà, je suis membre. Et quand on comprend cette notion de membre du corps, on réalise, mais je vais participer parce que sinon je manque. Et je suis tellement content dans l'Église, autant que je la connais, je ne connais pas trop, mais je suis tellement content de savoir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'engagent, qui prient pour l'Église, qui prient pour les perdus, qui prient pour les missions, qui veulent avancer ensemble, qui dans les petits groupes, dans les cellules de vie, ou comment vous appelez ça, dans les groupes, se retrouvent pour faire progresser l'Évangile dans ce pays où Dieu vous a placé. Donc, super, vous êtes membre de l'Église. Et c'est parce que vous voulez que cet organisme continue à vivre, et il vivra parce qu'il appartient à Christ, parce que c'est Jésus qui a donné vie à son Église, c'est lui qui bâtit l'Église. C'est pour ça que vous pouvez vous engager avec joie, en réalisant on est membre. Est-ce que je peux vous dire une phrase choquante? Non, peut-être pas. Le dimanche matin, ça ne se fait pas normalement. Mais j'ai pensé à une phrase là, qui m'a apparue, je l'ai un peu transformée dans le livre, où quelquefois on pourrait tomber dans le panneau de dire « Ah Jésus, tu es vraiment tout pour moi, je t'aime beaucoup, c'est super, Seigneur Jésus, tu es vraiment l'entier pour moi. » Mais tu sais, je n'ai vraiment pas le temps pour aider ton épouse. L'épouse, c'est l'Église, hein, d'après la Bible. Jésus, pour toi, je fais tout. Hein. Mais ton épouse, alors pff. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide à avoir une vision juste sur les possibilités de continuer à agir afin que l'épouse, que le Seigneur Jésus se prépare pour les noces, que cette épouse, nous puissions chacun de nous y travailler par la purification pour qu'elle soit belle et y travailler ensemble pour que son nom soit glorifié et que le Christ ait une grande joie, une énorme joie à son épouse. Ce ne sont pas en priorité les œuvres, mais cette joie sera en priorité nos attitudes, notre bonheur d'être à lui et de nous entraider ensemble pour être cette épouse. Il va bientôt revenir. Il ne m'a pas dit l'heure, mais ça vous le savez, il ne l'a dit à personne. Mais ce qui est beau, c'est qu'on peut être prêt et se réjouir vraiment. Il va revenir. Toutes ces promesses sont vraies, sont véritables. Toutes celles qui sont dans l'Écriture pour sa première venue se sont accomplies. Toutes celles qui sont dans l'Écriture pour sa deuxième vont s'accomplir. Il n'y a aucun doute, il va revenir. J'aimerais encore prier. Tellement bon, Seigneur, tellement bon d'être à toi, et tellement reconnaissant, Jésus, que tu connais le fond de nos cœurs et que tu sais combien j'ai besoin de la purification qui n'est qu'en toi et qu'au travers du sang de Jésus. Et merci que tu as mis en nous, Seigneur, en chacun d'entre nous, ce désir profond de progresser dans la sanctification et dans l'amour. Merci que tu ne nous laisseras pas seuls, que dans ce chemin de progrès, tu es avec nous et ton esprit, le Consolateur, nous accompagne. Merci beaucoup pour ça. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur que tu as encore un merveilleux plan pour ton Église avant ton retour. Je le crois que tu veux encore sauver beaucoup d'âmes pour glorifier ton nom Seigneur et que tu veux nous permettre de continuer à marcher avec toi, à marcher dans ce monde sans être du monde, à glorifier ton nom. Merci beaucoup Jésus. Amen. Et merci beaucoup de votre attention.